C'est donc l'heure de votre journal, Frédéric Barrère.
Bonjour à tous. La situation en Ukraine et la tension très forte à la une d'une actualité toujours préoccupante, avec aujourd'hui des efforts diplomatiques, les derniers possibles et nécessaires pour éviter un conflit majeur, indique l'Elysée. Emmanuel Macron s'entretient en ce moment avec Vladimir Poutine sur le terrain dans le Donbass. Des explosions ce matin dans la ville de Donetsk aux mains des séparatistes pro-russes. Dans cette région de l'Est, les civils se préparent à la guerre. L'actualité en France avec une vive émotion suscitée par un accident de chasse hier dans le Cantal, une randonneuse de 25 ans, tuée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier. L'auteur du tir mortel, une adolescente de 17 ans, est en garde à vue. Les écologistes réclament à nouveau l'interdiction de la chasse le week-end. Une marche blanche ce matin à Saint-Laurent-de-la-Salanque, près de Perpignan. Plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage aux 8 victimes de l'incendie qui avait dévasté 3 immeubles de ce village. La tempête Franklin, une réplique de la tempête Eunice, attendue ce soir dans le nord de la France. 4 départements en vigilance orange à cause de vents violents. Les prévisions complètes de Jean-Michel Golinski bien sûr à la fin de ce journal. Et en Chine, les Jeux Olympiques se terminent. La cérémonie de clôture vient de démarrer. Nous serons à Pékin dans un tout petit instant.
France Inter.
Pékin d'abord, où les Jeux prennent fin. C'est l'heure du bilan et de la cérémonie de clôture qui se déroule en ce moment. Et après les nuages noirs au début des Jeux, le boycott diplomatique, la menace épidémique et la polémique sur la neige artificielle, et bien finalement la Chine a accueilli des Jeux avec un sans faute dans l'organisation. En direct du stade national de Pékin, le fameux nid d'oiseau, on retrouve notre correspondant en Chine, Sébastien Berriot. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour Frédéric.
Alors l'heure est donc à la cérémonie de clôture, on entend bien derrière vous et la flamme olympique va bientôt s'éteindre.
Oui, avec l'entrée il y a quelques secondes du président chinois Xi Jinping et du président du comité international olympique. C'est une cérémonie qui doit durer environ 2 heures dans un nid d'oiseau qui est un petit peu à l'image de ces Jeux, c'est-à-dire avec très peu de public, environ 20 000 personnes ici pour une capacité de 80 000 places dans le nid d'oiseau. Il y a uniquement des invités car on est à l'intérieur de la bulle sanitaire. Comme pour la cérémonie d'ouverture, le spectacle va voir la participation de plusieurs milliers de jeunes chinois, pas d'acteurs professionnels ni de chanteurs professionnels, seulement des anonymes, collégiens, lycéens, étudiants issus de Pékin et de la province du Hebei, là où se sont déroulées les compétitions. Le nid d'oiseau, Frédéric, est le premier stade au monde à accueillir 4 spectacles olympiques, cérémonie d'ouverture et de clôture de ces JO 2022, après ceux des JO d'été de 2008 qui s'étaient aussi déroulés ici au sein du nid d'oiseau.
Sébastien Berriot, merci. Et Quentin Fillon-Maillet, notre héros, le porte-drapeau français lors de cette cérémonie de clôture, va nous conduire tout naturellement maintenant à faire le bilan sur le plan sportif. On reste d'ailleurs à Pékin avec vous, Jérôme Val. Bonjour Jérôme.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Alors objectif pratiquement atteint côté français, 14 médailles dont 7 en biathlon, dont 5 pour Quentin Fillon-Maillet.
Oui, le bilan français est plutôt bon hein, si on regarde à froid, sans mauvais jeu de mots ici. 14 médailles, c'est une de moins qu'à Sochi et Pyeongchang, dont 5 titres, c'est le même bilan qu'en 2018. Et encore, il y avait une vingtaine d'athlètes en moins par rapport à la Corée du Sud, donc le ratio est vraiment bon. Il y a, comme toujours, les points forts, évidemment, on en reparle, le biathlon puissance 7, c'est un record pour le biathlon. 5 médailles en effet pour le seul Quentin Fillon-Maillet, passé à un cheveu d'un grand chelem que l'on pensait impossible, la moitié des médailles des Bleus, c'est quand même un réservoir infini, alors que la locomotive de l'équipe de France ces dernières années, Martin Fourcade, a stoppé sa carrière il y a 2 ans. Succès aussi du ski alpin avec ses 3 médailles, une de chaque couleur, c'est le meilleur bilan depuis 20 ans et les Jeux de Salt Lake City. Et là encore, les têtes d'affiche, hein, Tessa Worley, Alexis Pinturault rentrent bredouille encore ce matin lors de l'épreuve par équipe. Et puis en patinage, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron n'ont pas raté leur rendez-vous avec ces Jeux. La pression était pourtant énorme sur le couple de danse sur glace.
Alors Jérôme, on vient de voir avec vous les succès. Il y a aussi des déceptions.
Oui, notamment pour le ski acrobatique et le ski freestyle. Aucune médaille en ski cross comme il y a 4 ans. Il y a eu des ratés aussi avec Perrine Laffont en ski de bosse. Tess Ledeux, 20 ans, n'a pas réussi son pari de 2 médailles. Elle a eu l'argent en biguère mais rien en slopestyle. Un seul podium pour le snowboard. Alors oui, le bilan aurait pu être un peu plus favorable, mais le directeur technique national de la Fédération française de ski, Fabien Saguez, ne veut accabler personne.
Moi, je pense à eux. Quelque part, on peut que les soutenir déjà pour ce qu'ils ont fait. Et puis, ben, ils n'ont pas fait de médaille cette fois-là. Et puis, la prochaine fois, ils reviendront plus fort. Et alors, on aurait pu transformer un peu plus. Mais en même temps, il faut regarder du côté positif. C'est que aujourd'hui, une fédération en France est capable de ramener entre 14 et 15 médailles sur les Jeux Olympiques. C'est extraordinaire.
Voilà, pas de record battu, Frédéric, mais néanmoins, selon la Fédération française de ski, bien le bilan est plutôt bon.
Alors Jérôme, la Chine aussi peut être très satisfaite de son propre bilan au jeu. Elle s'impose comme une nation importante en ski et en sport de glace.
Oui, rappelez-vous, les Jeux d'été de 2008, la Chine avait réussi l'exploit de détrôner les États-Unis et la Russie au tableau des médailles en terminant en tête. Alors l'objectif pour ces Jeux d'hiver n'était pas d'aller titiller les grandes nations du ski et de la glace comme la Norvège ou l'Allemagne, mais la Chine a réussi son pari à domicile, elle est troisième avec 15 médailles dont 9 en or. Et s'il y a un visage qui symbolise cette réussite, c'est celui de Yelene Gu. 3 médailles à elle seule à 18 ans dans les 3 disciplines du ski freestyle, le big air, le halfpipe et le slopestyle. Jamais personne n'avait réussi un tel grand chelem. Et d'ailleurs, il suffisait de voir ses performances suivies par des centaines de Chinois sur chacun des sites. On n'avait jamais vu autant de monde à chaque fois qu'elle apparaissait. Alors la question maintenant, Frédéric, qu'est-ce que la Chine va faire de ce succès sportif? Les Chinois vont-ils se passionner pour le ski? Avec ces Jeux, le pays tablé sur 300 millions de touristes dans les stations de ski, pas sûr que l'essai soit transformé.
Jérôme Val, en direct de Pékin avec Sandrine Malon, merci à vous. Et les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront lieu en Italie, dans 4 ans, à Milan et Cortina d'Ampezzo. On en vient à la situation en Ukraine et aux efforts diplomatiques d'urgence aujourd'hui pour éviter un conflit majeur en Ukraine. Les présidents français Emmanuel Macron et Vladimir Poutine s'entretiennent depuis 11 heures ce matin, alors que sur le terrain, les tirs sur le front dans l'est de l'Ukraine et les violations du cessez-le-feu se sont multipliés ces derniers jours. Et qu'en Biélorussie, on l'a appris ce matin, les troupes russes vont finalement rester pour poursuivre des manœuvres militaires qui devaient prendre fin aujourd'hui. Bonjour Christian Chéneau.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'offensive est diplomatique, les derniers efforts possibles et nécessaires pour éviter la guerre et le conflit.
Oui Frédéric, les consultations s'intensifient à mesure que la tension monte sur le terrain. Alors, on n'a pas encore le retour de l'entretien Macron-Poutine, mais hier dans la soirée, le président français s'était entretenu avec Volodymyr Zelensky, son homologue ukrainien, qui lui avait affirmé qu'il ne riposterait pas aux provocations des combattants séparatistes pro-russes le long de la ligne de contact dans le Donbass. Alors, au centre des discussions qui se déroulent en ce moment, il y a la question des garanties de sécurité de l'Ukraine, mais aussi de celle de la Russie, avec au cœur de la crise actuelle la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, considérée comme une ligne rouge par Moscou. Mais la grande question demeure, le Kremlin veut-il le dialogue? S'est interrogé ce matin Charles Michel, le président du Conseil européen, lors de la conférence de Munich sur la sécurité. Personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, insistait un diplomate français avant l'entretien du numéro 1 russe et d'Emmanuel Macron, et qui il ajoutait que le scénario d'une invasion de la Russie en Ukraine restait encore pour le moment une hypothèse, mais avec un risque très élevé selon lui.
Christian Chéneau, merci. Alors, la situation dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est toujours très alarmante. Le conflit ne s'est d'ailleurs jamais vraiment arrêté depuis 8 ans. La ville de New York, dans le Donbass, 10 000 habitants, à 4 km environ de la ligne de front, se prépare à la guerre avec des civils impuissants face à une offensive des séparatistes qui se précise de jour en jour. À New York, Donbass, un nom donné par des Hollandais au XVIIIe siècle, le reportage de nos envoyés spéciaux, Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil.
Sergueï descend dans la cave qu'il a sommairement aménagée. Et si la situation empire, cet ancien soldat de l'armée soviétique qui arbore fièrement ses médailles militaires se réfugiera avec son épouse et ses deux jumeaux dans cette petite pièce humide d'une dizaine de mètres carrés.
La maison est construite en pierre de taille, c'est solide et nous sommes en lieu sûr.
Nous, bien sûr.
Je suis prêt à aller me battre. J'ai 58 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas tout recommencer à zéro.
À l'extérieur, un voisin, Anatoli, nourrit comme si de rien n'était, comme si la guerre était encore loin, les dizaines de pigeons voyageurs qu'il dresse depuis toujours.
Depuis mes 7 ans, je m'occupe de mes pigeons, c'est mon passe-temps.
Il aimerait quitter New York, mais pour le moment, c'est impossible.
J'ai peur, comme tout le monde. Je n'ai nulle part où aller. Je suis né ici et ma famille vit ici. Ceux qui en avaient les moyens ont fui, mais moi, depuis le début de la guerre, en 2014, je suis resté ici. Selon un proverbe russe, l'herbe est plus verte ailleurs. Il faut continuer à vivre tant bien que mal.
Jusqu'à maintenant, New York échappe aux combats les plus violents qui, dans la région de Donetsk, se sont concentrés la nuit dernière à une quarantaine de kilomètres plus au sud.
Reportage de Thibault Lefebvre et Jérémy Thuil. Et puis concernant un autre dossier également très sensible, le nucléaire iranien, Emmanuel Macron s'est entretenu hier une nouvelle fois en l'espace de 3 semaines avec le président iranien, Ebrahim Raisi. Dans cet échange téléphonique, le président français a demandé à son homologue iranien de saisir maintenant l'opportunité de préserver l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien tant qu'il est encore temps. Cette information qui nous vient de Buckingham Palace, la reine Elisabeth II d'Angleterre a été testée positive au Covid-19, elle souffre de symptômes légers, similaires à ceux d'un rhume, annonce faite à l'instant par le palais de Buckingham. Plus jamais ça a réagi le gouvernement après un accident de chasse particulièrement effroyable hier dans le Cantal. Une jeune femme, une randonneuse de 25 ans, a été tuée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier alors qu'elle marchait sur un sentier balisé. L'auteur du coup de feu mortel est une chasseuse toute jeune, une adolescente de 17 ans. Elle a été placée ce matin en garde à vue. Cet accident de chasse provoque une vive émotion ainsi que plusieurs appels à prendre la mesure de ce drame, Faustine Calmel.
Notamment celui de Yannick Jadot, le candidat écologiste à l'élection présidentielle qui prône depuis longtemps l'interdiction de la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires. Il nous faut plus réglementer, il y a urgence, insiste-t-il sur Twitter. Sans aller jusqu'à un partage des forêts au niveau national, des décisions sont à prendre, abonde pour le gouvernement Bérangère Abat, secrétaire d'État à la biodiversité.
Il y a déjà, y compris le week-end, des jours ou des demi-journées qui, dans certains lieux, ne sont pas chassés. Il nous appartient déjà de les connaître et donc de les faire connaître. En faire une mesure emblématique au niveau national, on n'est pas prêt, mais on peut arriver à des ententes sur ces calendriers localement.
Mais plus de règles, cela n'est pas du goût des chasseurs, qui rappellent que le nombre d'accidents a été divisé par 2 en 10 ans et qu'ils en sont les principales victimes. Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, estime qu'il suffit de mieux appliquer les mesures existantes.
1. On a un examen du permis, donc qui est très strict et qui est délivré par l'État. 2. L'organisateur de la chasse est obligé de rappeler les consignes de chasse, l'angle de 30 degrés, toutes les consignes qui sont adaptées à un mode de chasse sur un territoire donné. La réglementation est suffisante, il faut l'appliquer.
Dès hier soir, insiste Thierry Coste, tous les présidents des fédérations de chasse ont eu pour consigne de rappeler les règles à leurs membres.
Faustine Calmel, merci. Une marche blanche a réuni plus d'un millier de personnes ce matin à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans les Pyrénées-Orientales. Une marche pour rendre hommage aux 8 victimes, dont un bébé et un enfant, qui ont péri après une explosion, puis l'incendie de 3 immeubles mitoyens lundi dernier. Un hommage et une immense tristesse. Sur place, Margot Karoff, France Bleu Roussillon.
En tête de cortège, tous les proches des victimes font bloc et ouvrent la marche. Dans leurs mains, des fleurs, des ballons et des photos, notamment celles des enfants morts dans l'incendie avec leurs jeunes parents d'une 20aine d'années et leur grand-père. Les habitants de Saint-Laurent et des communes alentours sont venus nombreux pour les soutenir, tous choqués par cet incendie tragique. La foule marche en silence dans les rues du centre-ville et arrive devant les barrières qui bloquent la rue Arago, là où les immeubles ont pris feu. Pendant de longues minutes, les familles se recueillent et déposent des fleurs et des bougies. La marche s'achève devant l'hôtel de ville. Le maire de Saint-Laurent remercie la foule. Avant de partir, de nombreux participants font la queue pour signer le livre de condoléances qui a été installé devant la mairie.
Une réplique de la tempête Eunice attendue ce soir dans le nord de la France. 4 départements, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime, à nouveau en vigilance orange. De très fortes ravales de vent avec des pointes possibles à 130 km/h sont redoutées. Cette nouvelle tempête, baptisée Franklin, arrive alors que les dégâts provoqués par Eunice n'ont pas encore été réparés dans le Nord et le Pas-de-Calais. Des arbres et des infrastructures sont encore fragilisés. 25 000 foyers sont toujours privés d'électricité, notamment dans les Hauts-de-France. Marion Ferrer, France Bleu Nord.
Des arbres arrachés, des pylônes et poteaux couchés. Par endroits, il reste aussi des branchages à dégager pour éviter qu'ils ne s'envolent et ne blessent un passant. Problème aussi, l'électricité. À la mi-journée, plusieurs milliers de foyers sont toujours privés de courant, principalement le long du littoral, mais aussi dans la métropole lilloise. Enedis a pourtant déployé 700 agents sur le terrain et ce sont désormais les lignes à basse tension, celles qui alimentent les petits villages qui concentrent leurs efforts. Jérôme Markiewicz est le directeur territorial d'Enedis Pas-de-Calais. Il confirme redouter les prochaines rafales de vent. C'est la troisième tempête en une semaine dans ce secteur.
D'après les informations météo que l'on a, ça va toucher effectivement les mêmes zones que celles qui ont déjà été touchées. Conséquence pour Enedis, effectivement, c'est que ça peut ralentir ou ça va ralentir les opérations qui sont en cours pour réalimenter les clients. Et on pense en premier lieu, certes, à réalimenter l'ensemble des foyers, mais également à la sécurité des personnels qui interviennent.
Autre impact, la circulation des TER, elle est à nouveau ralentie. Et puis les écoles, certains bâtiments ont été touchés et des établissements risquent de rester fermés demain malgré la rentrée scolaire. C'est le cas notamment à Calais.
En politique, ce dimanche, l'ancienne ministre socialiste de la Santé, Marisol Touraine, annonce qu'elle va soutenir Emmanuel Macron à la présidentielle. Et de son côté, Elisabeth Guigou, ancienne ministre socialiste également, rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron. Et puis à Nantes, le plus grand drapeau du monde a été déployé ce matin. Un drapeau trop grand et trop lourd pour être accroché et surtout pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle. L'association À la Bretonne entend avec ce drapeau de demander un référendum sur le rattachement du département de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, un débat qui dure depuis plus d'un demi-siècle et qui n'est toujours pas tranché. Erwan Chartier, chercheur associé au Centre de recherche bretonne et celtique.
Nantes a été longtemps la capitale politique de la Bretagne et le débat en fait remonte plutôt aux années 30-40 où on a les élites économiques nantaises, notamment la Chambre de commerce, qui ont plaidé pour une grande région ouest avec Nantes comme capitale. Et ça s'est en partie concrétisé en 41 sous le régime de Vichy où il y a une création d'une région Bretagne à quatre départements et la Loire-Atlantique étant intégrée à une région pays de la Loire à l'époque, dont la préfecture était Angers, ce qui est un peu vexé les Nantais. Le débat est vraiment remonté dans les années 70 où il y a eu la création des premiers conseils régionaux qui n'étaient pas élus à l'époque en 72 et la création de premiers mouvements pour la réunification de la Bretagne. Le détachement de la Loire-Atlantique de la Bretagne a toujours été une décision prise d'en haut par l'État. Et en tout cas, on n'a pas demandé aux citoyens, il n'y a pas eu cette réponse démocratique et on n'a jamais consulté en tout cas les gens en Loire-Atlantique.
Une initiative modeste et singulière maintenant, une exposition sur des enfants adoptés qui réunit un photographe et une jeune femme adoptée. C'est en ce moment, jusqu'au 4 mars, au 5 Toits, Paris, un espace associatif. Bernard Steffine a fait le tour de France en une semaine pour faire le portrait d'une cinquantaine de personnes adoptées, âgées de 17 à 62 ans. Ce projet vient d'une idée de Julie Foulon, née en Éthiopie et adoptée elle-même à 6 ans. Elle a lancé un appel à candidature sur les réseaux sociaux. Chaque photo s'accompagne d'une parcelle de l'histoire de ces personnes racontée par Julie Foulon. Avoir une famille adoptive, c'est avoir une foule de points communs et c'est ce que cette petite expo veut souligner, Béatrice Duguay.
Lily figurera bientôt dans la nouvelle série de photos de Bernard Steffi.
Je veux que tu te sens comme dans une salle d'attente.
Obligé de regarder.
Approche-toi un peu vers moi.
Elle pose dans cette cour d'immeuble, précisément quelques jours après avoir croisé Bernard dans la galerie photo où elle travaille.
Bernard est venu l'autre fois et il a posé ses cartels d'exposition et je lui ai dit attendez, revenez, moi je vais venir parce que je suis concernée du coup.
Enfant adoptée en Chine à l'âge d'un an, elle en a 22 aujourd'hui. Le travail de Bernard et Julie coïncide avec ses questionnements à elle.
C'est comme une résonance de ce que j'ai pu ressentir et de le voir affiché sur le mur. On n'est pas seul en fait, et c'est incroyable. On a beau avoir des proches, des amis, ils ne peuvent pas comprendre 100% le début de l'histoire. Quoi. Donc, c'est assez fort. Quoi.
C'est parce qu'elle connaît ces sentiments que Julie Foulon a lancé l'appel sur les réseaux sociaux, bien décidée à matérialiser ce qui lie ces personnes adoptées.
Par exemple, il y en a un, Jérémy, tout là-haut, qui dit que, ironie du sort, on lui a souvent répété qu'il ressemblait à ses parents adoptifs. Puis après, on a Tanguy aussi, qui lui, il vient de Russie, et qui dit qu'il a l'impression d'être né dans sa famille adoptive. Donc c'est des histoires complètement singulières et franchement je suis ravie que cette exposition commence à naître.
Cette sorte de fraternité voilà. Des adoptés pourrait bien grandir encore en portrait noir et blanc.
La personne que vous voyez, c'est la personne d'aujourd'hui. C'est pas quelqu'un qui a adopté il y a 20 ans ou je sais pas quoi.
Recueil qui débouchera peut-être sur un livre.
Voilà, exposition jusqu'au 4 mars au 5 Toits à Paris. Le temps pour les heures qui viennent et pour demain.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
Un soleil plus vaillant qu'ailleurs cet après-midi pour le bassin méditerranéen, également des Pyrénées aux Alpes. Des éclaircies vont se développer en seconde partie de journée sur l'arc atlantique, alors que partout ailleurs le ciel sera maussade et l'ambiance agitée avec des rafales vers 70 km/h, voire 90 en fin de journée sur le quart nord-est. Et puis, remarque importante, entre la soirée et le milieu de la nuit prochaine, une zone de vent fort va traverser le nord de la Seine avec des pointes de l'ordre de 110 km à l'heure sur la Seine-Maritime, la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange. Un vent qui sera également très turbulent sur les régions limitrophes. Demain, toujours une météo très ventée vers 90 km à l'heure sur la majeure partie du pays avec des pointes à 110 sur les Alpes et les Pyrénées, 120 sur la Corse, le tout accompagné d'averses avec de la neige à moyenne altitude sur tous les massifs et par accumulation, beaucoup de neige à partir de 1000 mètres sur le nord des Alpes.
Jean-Michel Golinski de Météo France.